Grandet, la structure actuelle de la Bible juive. Donc vous vous souvenez que les juifs désignent la Bible par quatre expressions. Alors, le livre, donc comme nous, on dira la Bible, « et biblia » en grec. La Sainte Écriture, ils appellent aussi l'enseignement, et puis « TNK », on l'avait vu, donc les trois, recitant les trois parties principales de... Voilà, c'est ça. Donc Torah, c'est la loi, c'est nous ce qu'on appellerait le Pentateuque. Néouïm, ce sont les prophètes, mais pour eux les prophètes, il y a quasiment tous les livres historiques qui sont prophétiques, c'est ce qu'ils appellent les prophètes antérieurs. Et puis il y a Ketuvim, qui sont les autres écrits, donc tout ce qui est globalement ni la loi, ni l'histoire royale, ni les grands prophètes, enfin les prophètes disons, tout le reste c'est dans les autres écrits, alors en particulier les livres sapientiaux et les deux gros morceaux là-dedans, pour eux c'est le Psautier et Job.
Dans le Kitty, oui.
Oui. Donc la Torah c'est la loi, les cinq livres, Pentateuque en grec, de la Genèse au Deutéronome, donc les Néouïm, les prophètes, qui se divisent en prophètes antérieurs, c'est ce qui prend la suite de la Torah, Josué, les juges, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 rois, et les prophètes postérieurs, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, oui, et les 12 prophètes. On appelle parfois les petits prophètes. Et puis on a les Ketuvim, ou écrits, qui comprennent les écrits sapientiaux, les psaumes, les proverbes, alors les psaumes de David, les proverbes de Salomon, enfin, voilà, Job, le cantique des cantiques, Ruth, les Lamentations, Esther et Daniel, parce que Daniel fait partie pour eux des écrits, des autres écrits.
Les Lamentations, c'est pas dans
les Lamentations de Jérémie, donc c'est séparé.
Jérémie... Ah, c'est séparé, oui. D'accord.
Les prêcheurs aussi, qui sont d'autres écrits. Et puis des écrits historiques comme Esdras, Néhémie, 1 et 2 Chroniques. Vous voyez, nous, on aurait tendance à mettre les rois et les chroniques un peu dans le même paquet. Pour eux, les rois, c'est les prophètes antérieurs, et les chroniques, c'est des écrits qui ont une autorité moindre. Et cet ordre semble déjà attesté à l'époque de Jésus. On s'en rend compte à travers une notation de l'évangile de Saint Matthieu, une parole de Jésus, qui dit en Matthieu 23, 35, pour parler de l'universalité du règne du mal, il part du meurtre d'Abel, Genèse 4, 8, pour aboutir à Zacharie, tué entre l'autel et le... voilà. 2 Chroniques 24, 20, 22. Et en partant de la Genèse pour arriver à Chroniques, eh ben, en fait, il part du premier livre de la Bible juive pour arriver au dernier livre de la Bible juive, puisque Chroniques s'achève avec Cyrus et le retour d'exil. Et donc, vous voyez, il part du premier livre pour arriver au dernier livre, et ça montre bien l'universalité du règne du mal. Parce qu'on peut se dire que du coup le mal traverse toute la Bible, du premier livre jusqu'au dernier. Donc, comme je disais, alors petit b, la signification, il n'est pas indifférent que la Bible juive s'achève par le deuxième livre des Chroniques, car il comporte justement à la fin l'édit de Cyrus qui restaure Israël. Et je vous cite le passage. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Yahvé, le Dieu du ciel, m'a remis tous les royaumes de la terre. C'est lui qui m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Vous voyez, et qu'il monte. Et ce texte retrouve évidemment toute son actualité après la destruction du temple par Titus lors de la première guerre juive en 70, et encore davantage après la deuxième guerre juive en 135, où les Romains cette fois-ci en ont marre et rasent tout Jérusalem et le reconstruisent comme une ville païenne avec un forum, des... vous savez, il y a une mosaïque assez connue qui représente une colonnade, enfin c'est Aelia Capitolina, autrement dit, Jérusalem, une Jérusalem reconstruite par les Romains. Oui. Et enfin, la Torah qui ouvre la Bible accompagne tout son déploiement, elle est présente, on peut dire, à chaque étape. Pourquoi ? Parce que c'est en son nom que s'élèvent les prophètes, c'est sur son application que doivent veiller les rois et les gouverneurs, c'est pour elle que meurent les martyrs, et c'est elle qui inspire la prière et le culte. Hein, si on veut, on pourrait dire que la Torah est à l'ensemble de la Bible juive, ce que nous, l'Évangile, est à l'ensemble de la Bible. C'est-à-dire, c'en est vraiment le cœur, le noyau, l'inspiration, etc. Donc, voilà pour ce grand D. Alors, on va passer à la constitution de la Bible chrétienne. Donc, paragraphe 2. Alors, les chrétiens vont reprendre la Bible aux juifs, puisque à l'origine, ils sont quand même juifs. Hein. En lui donnant un sens nouveau, avant d'y ajouter leurs propres écrits. Et alors, le temps des livres juifs. Grand A. Alors, il y a tout d'abord ce qu'on appelle le kérigme. Avant d'être écrit, eh bien, le Nouveau Testament a été oral. Il a été une proclamation de Kérusso en grec, qui est de crier, quoi, un cri public, une proclamation. To kerygma en grec, ça veut dire la proclamation, un terme neutre. Donc les premiers chrétiens vont répandre leur proclamation, leur kerygma, qui est essentiellement centré sur le mystère pascal de Jésus, c'est-à-dire, en gros, ça tiendrait, moi, une fois, j'avais fait un sermon il y a longtemps, je dis, ça tient sur un ticket de métro. Le ticket de métro a l'avantage d'être comme un plan Sciences Po, hein, vous avez la bande marron, là, au milieu, puis ça détermine deux parties. Première partie, Jésus est mort. Deuxième partie, Jésus est ressuscité. Et en gros, toute la foi de l'Église tient dans ces deux mots-là, dans ces deux phrases-là. Et ça, c'est vraiment l'annonce primordiale des premiers chrétiens. Celui que vous avez mis à mort a été ressuscité. Alors, après, on complète par le Père, par la puissance du Saint-Esprit, mis à mort par Pilate, livré par les Juifs, bon, etc., etc. Mais tout le reste, ce sont des compléments circonstanciels, si vous voulez. Mais l'articulation, c'est... il a été mis à mort, il est vivant. Et c'est pas dans l'autre sens. Hein. Il est vivant, il a été mis à mort, ça, tout le monde est d'accord, ça nous arrive à tous. Mais il était vivant, il a été mis à mort, et il est de nouveau vivant. Et sa résurrection, plus exactement, ça c'est le père Nichols, un dominicain anglais, qui a attiré mon attention là-dessus, parce que j'étais moins sensible, parce que finalement, nous, l'ascension, ça passe tellement dans la queue de comète de la résurrection qu'on ne voit pas toujours ce qu'il y a de propre à cette fête. Eh bien, Nichols, qui a beaucoup travaillé les théologiens orientaux, disait ben, c'est capital parce qu'en fait, l'ascension, c'est l'intronisation du Christ à la droite du Père. Donc, c'est la remise de tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été remis. Eh bien, le pouvoir lui est remis au moment où il siège à la droite du Père et il siège au moment de l'ascension. Enfin, alors, donc, là, le Christ est non seulement ressuscité, mais le pouvoir royal, le pouvoir divin, lui est donné en tant qu'homme, qu'être humain, ressuscité. Mais, autrement dit, c'est un pouvoir... Vous voyez, c'est pas un pouvoir qu'il exercera seulement à la fin des temps, mais c'est un pouvoir qu'il exerce dès aujourd'hui, enfin dès le jour de son ascension. Et donc il a un pouvoir royal qu'il exerce sur terre dès son ascension et qui passe justement par des lieutenances. C'est pour ça que Nichols est un dominicain anglais royaliste, parce qu'il considère que la monarchie britannique continue d'incarner, avec tous les défauts qu'on peut lui imaginer, la dimension sacrale de la royauté à travers l'onction que le roi ou la reine reçoit. Alors ça pourrait être mieux, c'est évident, mais au moins il y a la dimension symbolique qui demeure dans un pays européen, comme elle existait chez nous avant. Hein. J'ai fait allusion lundi soir. En fait, non. Bah, un petit peu, parce que l'abbé Edgeworth, enfin, il était irlandais, mais quand même, il avait un nom bien anglais. Hein. Oui, c'est ça. Non, j'ai cité le Frédéric de Prusse à cause du sous-diacre qui était allemand. C'était une sorte de private joke. Mais non, c'est aussi parce que j'avais lu, effectivement, des éloges de Louis XVI dans la correspondance de Frédéric qui quand même s'y connaissait c'était pas un imbécile, donc on sent qu'il avait enfin un jugement assez juste. Il est mort en 86. Il est mort plus tard, en 88, je crois bien. Au moment où il y a eu la guerre de succession de Bavière, il me semble.
Donc il était mort en 93.
Oui, il était mort en 93. Mais... Oui, c'était Frédéric Guillaume II, je crois qu'il y a son neveu qui lui a succédé. Alors donc, avec l'ascension, Jésus est intronisé, il est constitué, alors comme dit l'Écriture, et ça, parfois ça nous gêne, et ça nous gêne tellement que ça sera réutilisé par les Ariens, évidemment. Vous savez, l'arianisme, on dit c'est une hérésie. Enfin, c'est une hérésie qui trouve toutes ses origines dans l'Écriture sainte, et dans la nôtre en particulier. Les premiers textes des Actes des Apôtres disent qu'il est constitué kurios. Kurios, c'est le Seigneur. Il est constitué Seigneur. Alors, de là à dire, surtout que kurios, dans la Bible grecque, c'est le terme utilisé pour dire Dieu. Donc c'est, autrement dit, une traduction possible, c'est de dire il est constitué Dieu, et il est constitué divin au moment de l'ascension, au moment de la résurrection, si vous voulez. C'est pour ça que le principe protestant du libre examen, où chacun est son propre pape, comme disait, je crois, Boileau, il me semble, ou enfin un poète du XVIIe français, c'est très dangereux, parce que on peut tout faire dire à l'Écriture. L'Écriture est assez ambiguë. Or, justement, Jésus a doté la carte, si j'ose dire, d'une boussole qui nous permet de la lire comme il faut. Et la boussole, c'est le magistère, hein. C'est les évêques qui ont été, enfin, c'est les apôtres chargés d'interpréter l'Écriture, et d'autant plus facile, enfin, de l'interpréter qu'elle n'existe pas encore, à vrai dire. Hein. Notre Écriture à nous, elle n'existe pas encore. Donc, enfin, qu'ils sont chargés de la rectitude du discours sur lui, si on peut dire.
Avant son incarnation, il avait pouvoir aussi.
Oui, mais avant son incarnation, oui, comme Dieu, enfin, dans la divinité. Comme par exemple, David et Salomon sont effectivement aussi des lieutenants du roi, des lieutenants du Dieu un. Tandis que là, il y a la dimension où nos royautés sont des royautés qui sont aussi des lieutenants, mais de celui qui a été constitué dans son humanité roi. Voyez, c'est pas la royauté du Créateur, mais c'est la royauté du Créateur qui s'est fait rédempteur et qui s'est fait l'un de nous en même temps. Alors, les discours de Pierre, puis de Paul, parce que vous avez vu que les Actes des Apôtres, en fait, il y a deux grandes parties. Hein. D'abord, ça parle de Saint Pierre, et après, ça parle de Saint Paul. Donc, les discours de Saint Pierre et de Saint Paul, avec ceux de Saint Étienne aussi, dans les Actes des Apôtres, sont justement des illustrations de cette prédication, de cette proclamation du kérigme. Alors, par exemple, citons simplement celle de la Pentecôte, donc Pierre, au chapitre 2 des Actes, versets 22-24 et verset 36. Voilà ce qu'il dit. « Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par des miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même, cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant sur la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, donc Kurios et Christos, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Donc, vous voyez, c'est clair. Hein, les deux parties, mis à mort avec tous les compléments circonstanciels, par vous, par le moyen des païens, etc., etc. Et deuxième partie, il est ressuscité par la puissance de Dieu et constitué Christ et Seigneur, donc Christos et Ouin. Messie, autrement dit, Seigneur, donc Dieu, hein, divin. Donc Pierre s'adresse à des Juifs et il se situe résolument dans la ligne d'Israël. Hein, ses interlocuteurs, c'est vous qui l'avez crucifié. Hein. Il ne prétend pas, en plus, introduire une religion nouvelle, mais plutôt il le présente comme l'accomplissement de la religion ancienne en tant qu'il est présenté comme Christ, comme Messie, justement le Messie attendu. Et c'est pourquoi, donc, il argumente à partir des Écritures, il fonde son discours et il l'articule sur des textes prophétiques, sur des paroles, hein, comme dira Saint Jean dans son évangile, pour que cette parole s'accomplisse, il a été transpercé, vous savez, avec le coup de lance, là, c'est une citation de Zacharie. Voilà. Donc, il articule sur les textes prophétiques. Puisque le roi David avait chanté son immortalité dans les psaumes, et que pourtant il est mort, c'est qu'il parlait non de lui, mais de quelqu'un de sa descendance. Or, Jésus, dont Pierre assure que mis à mort, il est encore vivant, et bien de la race de David. Donc Pierre appuie toute sa proclamation sur les Écritures, montrant que en Jésus, ces Écritures se réalisent. Alors, c'est un exemple avec Pierre, on peut dire exactement la même chose avec le discours d'Étienne, qui est encore plus long. Et puis ensuite, Paul, avec sa manière, dira la même chose. Alors, puisque j'y suis, alors attendez, est-ce que j'ai poupoum poum? On verra ça un peu après. Alors, Petit b, le kérigme, une interprétation christocentrique des Écritures. Donc, en tant que rameau du judaïsme, et des rameaux, il y en avait à l'époque, hein, il y avait les Esséniens, il y avait, etc. En tant que rameau du judaïsme, le christianisme naissant, eh bien, se réfère à des textes qui sont naturellement des textes juifs. C'est ce que fait saint Paul, par exemple, à Timothée, qu'on fête aujourd'hui. Il écrit « En venant, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas. » Parce qu'il y avait une coupure de gaz, donc il y avait un peu froid. Chez Carpos. Alors, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Donc les livres qui sont des rouleaux, et surtout les parchemins, parce que les parchemins devaient être, il devait y avoir des textes plus importants écrits dessus. À l'époque, sur quoi on écrit ? On écrit, comme je vous le disais l'autre fois, pour les choses importantes, sur des papyrus ou sur des parchemins qui sont des peaux de bête. Vous connaissez l'expression du père de Descartes, hein, qui se moque de son fils en disant « il se fait relier en peau de veau ». Donc, quand on regarde les bouquins du XVIIe siècle, souvent c'est de la peau de bête, là, et qui... voilà. Alors... Donc voilà, les livres, surtout les parchemins. 2 Timothée 4, 16. Alors n'oublions pas que Paul est un élève de Gamaliel, donc il connaît bien ses Écritures. Et sa connaissance, d'ailleurs, des Écritures, l'amène à lui aussi exercer la fonction d'ancien dans les synagogues des villes qu'il traverse.
Avant sa conversion ?
Non, avant on ne sait pas, mais après sûrement, puisqu'on en a le témoignage dans les actes, où, par exemple, acte 18.4, on dit « Chaque sabbat, il discourait à la synagogue et s'efforçait de persuader juifs et grecs. » Donc, ça devait être comme dans l'histoire de la synagogue de Jésus au début de son ministère public à Nazareth, où on lui demande de lire le texte et puis du coup on lui demande aussi de le commenter. Donc là, même chose, à plusieurs reprises on voit dans les actes que Paul entre dans une synagogue, il fait la lecture et puis en tant qu'étranger de passage, on honore la personne de passage et on lui dit si vous avez quelque chose à dire, un commentaire, ce qui nous changera de l'homélie habituelle du rabbin, eh bien, dites quelque chose. Et alors, c'est là que, paf, Paul, en général,
fonce dans le tas,
oui. Alors, la méthode de Paul, c'est aussi celle de Philippe. Philippe, vous savez, le diacre, hein, ouais. Donc, elle consiste à déplacer le centre de gravité des Écritures et à le cristalliser dans la personne de Jésus. Hein? Avant, le centre de gravité, il est dans la Torah, avec son ouverture vers la restauration finale, le Messie. Pas pour rien, donc, ça se termine par 2 Chroniques, avec reconstitution du royaume et l'attente du roi, en fait. On va déplacer le centre de gravité des Écritures dans quelque chose qui n'est pas dans les Écritures, formellement, qui est la personne du Christ, mais dont, justement, Philippe, Paul, Pierre, Étienne et tous les autres vont essayer de montrer que c'est de lui qu'on parle tout le temps dans les Écritures juives, mais à mots couverts, d'une certaine manière, parce qu'il était comme figuré, voilà. Figuré. À l'eunuque éthiopien, donc il s'en retourne vers son pays, en lisant Isaïe, mais sans le comprendre, vous savez que Philippe le rattrape et puis lui dit « Mais de qui parle le prophète ?» Il était en train de lire justement le Deutéro-Isaïe ou le Trito-Isaïe avec comment on appelle ça, les poèmes du serviteur souffrant. Eh bien, Philippe fait une catéchèse qui n'est rien d'autre qu'une interprétation christocentrique qui introduit au kérigme